Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Maxime de la chaîne Les Frères Codeurs. Maxime est donc créateur de contenu, mais pas seulement, il est aussi entrepreneur et dans cet épisode, il nous raconte comment il a créé sa première start-up. On discutera également de comment il a réussi à passer d'employé dans un grand groupe à freelance et chef d'entreprise aujourd'hui. Si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement. Et en attendant, je vous laisse apprécier mon échange avec Maxime. Alors bonjour Maxime, merci d'être venu sur ce podcast. C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant que je te suis sur YouTube, que je regarde un peu de loin le contenu que tu fais sur YouTube. Donc ta chaîne YouTube, on en reparlera dans cet épisode et puis on va discuter un peu voilà, de ce que tu fais aujourd'hui, de quelle place prend le code dans ta vie et de tout ce que tu fais un peu autour. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire en quelques lignes ce que tu fais aujourd'hui et puis après éventuellement on reviendra sur certains points en particulier?
Ouais, bah avec plaisir. En tout cas, bah merci pour l'invitation, Quentin, ça fait grave plaisir. Et bah du coup, bah moi c'est Maxime, hein, plus connu sous le pseudonyme Max des Frères Codeurs. Donc les Frères Codeurs, c'est une chaîne YouTube que j'ai lancée avec mon frère en janvier 2020. Et donc on parle d'un peu tous les sujets autour de l'univers du code. Et à part ça, je pense que par la suite j'aurai l'occasion de parler un peu plus de mon parcours, mais autrement je suis ingénieur à la base. Et également développeur web et mobile.
Ok, donc ce que tu fais aujourd'hui, enfin, quelle est ton activité principale ou tes activités principales aujourd'hui ?
Ah ouais, tu fais bien de dire tes activités parce que je touche un peu à tout en ce moment. C'est un peu une période, je sais pas comment dire, période transitoire un peu où je teste pas mal de trucs parce que tout ce qui est la chaîne YouTube, ça me prend pas mal de temps. J'ai commencé ça il y a un an. Et quand on rentre dans ce domaine-là, on se rend bien compte que ça prend une part assez grosse du quotidien, enfin, du moins si on s'investit et qu'on est régulier. Donc ouais, j'ai une facette, on va dire, création de contenu, qui me prend quelques jours, je pourrais en reparler, mais facilement 2 jours par semaine, 2 ou 3 jours. Et à côté de ça, actuellement, je fais de la freelance. Je fais de la freelance en développement web et mobile. Et donc voilà, c'est à peu près mes activités principales en ce moment, quoi.
Ok, donc c'est vrai que, moi perso, j'aime bien introduire la liberté, l'expliquer. Enfin, en tout cas, moi, je la vois en 3 étapes, en 3 paliers plutôt. Donc, le premier palier où tu bosses pour quelqu'un, le deuxième palier où là, c'est plus tu bosses en freelance, mais toujours pour quelqu'un, et ensuite le troisième palier qui est, alors il a plusieurs formes, mais qui est, voilà, tu bosses sur ton projet à toi, qui te permet de générer assez de revenus pour être assez libre, et c'est intéressant parce que là, on voit que tu es déjà à un stade plus ou moins avancé de la liberté. Alors, encore une fois, la liberté, on met n'importe quelle définition derrière ce mot-là, mais on voit effectivement que tu es en train de mener des projets qui vont t'approcher de la liberté. Est-ce que cette chaîne YouTube, et on parlera après du freelance, est-ce que cette chaîne YouTube, tu l'as montée dans un but précis ou tu as commencé à créer tes premières vidéos et ensuite tu t'es dit, bon, bah, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui puisse être éventuellement rémunérateur après ?
Alors en fait, la chose, c'est que au départ, moi, j'ai toujours une sensibilité un peu créative, artistique, depuis que je suis ado et que j'ai toujours voulu mettre en avant, enfin même tout petit, je faisais déjà des vidéos. Donc j'avais cette composante-là dans ma façon de faire et du coup pour la chaîne YouTube c'est un plus. Et l'autre raison c'est aussi qu'avec mon frère, on avait testé un peu de faire du contenu sur le web et on s'est dit ça serait cool d'avoir une sorte de vitrine. Donc voilà, après moi je suis pas du genre à dire je fais ça que pour la passion ou quoi. Le but c'est aussi quelque part d'avoir un sort de retour. Et donc, ouais, on avait fait ça avec mon frère pour ces deux choses-là, c'est-à-dire, moi, de mon côté, j'avais le côté créatif et j'ai toujours eu envie de partager, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté partage où, bah ouais, j'avais très envie de parler de mon expérience, surtout que, bah, je vais peut-être revenir dessus. Moi, mon parcours, il est assez atypique parce que je suis sorti d'école, j'ai fait 2 ans de salariat, puis j'ai monté une start-up, j'ai bossé 2 ans en tant que président d'une start-up, puis après, il y a 1 an, je l'expliquais, j'ai lancé la chaîne YouTube. Et donc, de par l'expérience que j'avais pu acquérir tout au long de mon parcours, je me suis dit, bah, il y a des choses à dire. Surtout que j'aime bien aussi, voilà, un peu manier les mots, essayer d'expliquer aux gens la pédagogie, des choses comme ça. Et donc, c'est un peu ça qui a amené à la genèse de la chaîne YouTube.
Ok. Et justement, ouais, tu nous parlais un peu de ton cursus scolaire. Est-ce que tu peux revenir un peu, alors sans rentrer en détail, mais sur cette expérience donc d'école d'ingénieur, si je me trompe pas, et nous expliquer un peu comment t'es rentré dans le monde du code?
Bah, moi, l'école d'ingénieur, c'était. On va dire que moi, à l'époque, j'avais pas eu de grosse prise de conscience ou quoi encore, et j'étais pas le meilleur étudiant. J'étais pas passionné par le code pendant les études, pas du tout. C'est bien après que j'ai pris un peu conscience de tout ça, j'ai pris l'importance que ça pouvait avoir, mais c'est en étant rentré dans le monde pro que j'ai commencé à me passionner. Après, si tu veux parler de mes premiers contacts avec le code, on va dire oui, dans mes études, forcément, c'était là. En première année de prépa ingénieur, j'ai fait du Python, par exemple. Après, on a vu des langages comme le Java, on a fait du C également. Donc là, c'était mes premiers contacts, mais je dois bien avouer qu'à l'époque, moi, tout ce qui était le système un peu scolaire, etc., ben, voilà, c'était pas trop mon truc, comme certaines personnes. Et donc j'avais pas développé une passion pour le code, quoique quand même pendant mes études avec des potes, on avait quand même eu des projets annexes. Genre on avait fait des applications mobiles, je me souviens, on avait fait un jeu à boire en tant qu'application mobile. On avait fait même une application comme un assistant de musculation en application mobile également. On a également participé notre propre gré à c'était un concours organisé par Thales à base d'Arduino. Et en fait, je dois bien avouer que c'est à ces moments-là que j'ai pris vraiment du plaisir à la programmation. Alors, c'était peut-être troisième ou quatrième année d'études quand même. Mais sinon, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai eu mes premiers contacts avec la programmation. Et j'avoue que faire les projets par moi-même avec une équipe sur des choses qui me plaisaient, c'est ça qui m'a fait aimer le code plus que les cours un peu magistraux qu'on pouvait avoir.
D'accord. C'est assez marrant ce que tu me dis là parce que je me retrouve un peu dans ton parcours dans le sens où, si je me trompe pas, donc toi, tu as eu une scolarité, tu as suivi des cours qui étaient plus axés sur du système embarqué, donc des langages assez bas niveau qui sont un peu moins visuels, on va dire. Et en fait, moi aussi, ma première année d'école d'ingénieur, donc c'était en électronique système embarqué. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que voilà, tout ce qui est robots, système embarqué, les drones, l'intelligence, tout ça, vu d'extérieur, c'était ultra kiffant, c'était ultra passionnant, mais une fois qu'on était dedans, je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est peut-être pas ce qui, moi, me passionne le plus. Et en même temps, on avait des cours de C, et j'avais suivi un tuto, enfin une suite de cours sur Open Classrooms, et les derniers chapitres, c'était comment faire un jeu avec une certaines librairies, je sais plus comment elles s'appellent, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus visuel avec le C que ce qu'on a l'habitude de faire avec. Et j'ai l'impression en fait que bah, tu as eu un peu ce même cheminement quand tu me dis moi le code ça m'intéressait pas plus que ça, et en fait tu t'es rendu compte que si, pourquoi pas, et tu t'es lancé sur quelque chose de beaucoup plus visuel qui était notamment les projets sur des applications mobiles que tu as suivi avec tes potes en école.
Ouais, alors ouais, il y a eu en partie ça, c'est vrai. Après, moi, faut quand même savoir que en sortie d'école, j'étais diplômé ingénieur systèmes embarqués. Donc, pour le coup, je suis vraiment allé au niveau des études, c'était 100% ça. Après, bien sûr, comme tu le disais, il y a une composante programmation et système embarqué qui est une énorme composante du domaine. Et tu le disais à juste titre, voilà, le langage bas niveau comme le C, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et exactement comme tu le disais aussi, il n'y a pas la partie graphique. Pour autant, les systèmes embarqués, moi, c'est un domaine qui m'a beaucoup passionné, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette composante graphique qui a fait quand même qu'en partie, j'ai switché. Même si je suis pas contre l'idée de refaire des systèmes embarqués. Mais en sortie d'études, si je peux passer là-dessus, j'ai passé 2 ans, du coup, dans une start-up en tant qu'ingénieur systèmes embarqués. Donc là, j'étais vraiment plein dedans. Et cette expérience-là, elle m'a apporté énormément parce que quand je sortais d'études, alors faut savoir qu'en fin d'études, j'ai fait mes 6 mois dans cette même start-up, enfin mes 6 mois de stage, parce qu'en école d'ingénieur, t'as un stage de 6 mois à la fin qui est obligatoire. J'ai fait mes 6 mois dans cette boîte-là, puis après m'embaucher parce que ça s'est très bien passé. Et voilà, en tout et pour tout, j'ai passé 2 ans dans ces startups en tant qu'ingénieur systèmes embarqué. Et j'ai énormément appris parce que il y a quand même une grosse différence entre, forcément, entre l'école et le monde professionnel. Et moi, ce qui suscitait beaucoup plus mon intérêt, bah, comme tu peux t'en douter, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens, c'est d'être au contact de projets réels, de comprendre pourquoi tu fais telle chose et d'être plus impliqué dans le monde réel, ce qui n'est pas encore le cas à l'école. Après, il faut essayer de faire des projets de plus en plus, de rendre ça le plus proche du monde professionnel, et il y a de très bonnes choses qui vont dans ce sens-là. Voilà, j'ai fait pas mal de systèmes embarqués pendant 2 ans, j'ai appris pas mal de rouages, surtout du monde professionnel, ce qui est très important, et c'est des choses qu'on voit pas forcément aux études. Et par contre, par après, j'avais quand même cet esprit d'entrepreneur qui m'a rattrapé, cette petite flamme de l'entrepreneur, dans le sens où... depuis toujours, on va dire même quand j'étais embauché dans cette start-up-là, dans un coin de ma tête, j'avais toujours cette idée de lancer mon propre projet, de tenter quelque chose du point de vue vraiment entrepreneurial. Et c'est ce que j'ai fini par faire, malgré que dans la boîte où j'ai été, il n'y a eu que du positif. Enfin, en gros, ce qui m'a fait partir de cette boîte-là, ça ne provient pas de la boîte, quoi. Ça provient vraiment de moi-même. Et pour revenir sur le sujet du jour, ça provient même de ma soif de liberté, on peut dire ça comme ça. Mais même ma soif presque d'accomplissement, ma soif de lancer quelque chose par moi-même.
Ok, ouais, effectivement, tu me dis avant tout cette soif de créer. Bien sûr que je pense que la plupart des entrepreneurs, la plupart des créateurs, que ce soit de contenu, de projet, sont avant tout attirés par... la création plutôt que les bénéfices, l'argent qu'on peut en tirer. Bien sûr, l'argent, c'est un outil, mais derrière, un entrepreneur qui arrive à créer quelque chose qui lui permette de générer des revenus passifs, il va jamais... enfin, dans très peu de cas, il va aller s'allonger sur la plage et boire des noix de coco. Il va en profiter pour améliorer son projet actuel, pour lancer d'autres projets, etc., etc. Est-ce que justement tu peux revenir sur, continuer sur ce projet entrepreneurial dans lequel tu t'es lancé après ces 2 années, c'est ça, en SS2I, enfin du coup en startup.
C'est ça, ouais, j'étais en startup, ouais, c'est ça, c'est une startup niçoise qui est même presque leader mondial dans l'autopartage, donc dans le car sharing pour ceux que ça intéresse. Et donc, l'idée c'est que donc, j'ai passé 2 ans là-bas, ça s'est très bien passé. On va dire, où j'ai appris le plus, c'était dans les process que tu peux avoir, les process, les exigences professionnelles que tu peux avoir dans le monde de l'entreprise, ou même, je dirais, dans la gestion des projets, le management, comme ça, même si c'est pas moi qui étais à des postes clés à ces niveaux-là, j'ai pu les voir et comprendre comment ça se passait. Et donc, après 2 ans, il y a un moment, ça mijotait depuis longtemps et j'avais mon frère à mes côtés qui était chaud aussi, qui cherchait vraiment un projet pour se lancer. Et alors, je vais pas décrire 1000 ans le business sur lequel j'étais, mais pour faire simple, c'était une plateforme de financement participatif pour les créateurs de contenu avec une forte composante web parce que le tout était géré par une plateforme web et plus tard est venue une application mobile. Alors là, je dis ça comme ça, mais ça s'est fait en très longtemps, ça s'est pas venu d'un coup... Même quand j'étais encore dans la startup, j'avais mon frère qui était déjà à plein temps dessus pour vraiment commencer la partie technique. Et donc après, voilà, il y a un moment, j'étais dans ma startup, enfin dans la startup où j'étais avant, et je leur ai dit, franchement, ça se passe super bien ici, j'apprécie beaucoup ce que je fais. Même mon travail, franchement, je l'aimais beaucoup. Il y avait, pour juste préciser un peu les stacks techniques, peut-être ça en intéressera certains, mais on était sur du Linux embarqué avec du C pour les process assez bas niveau et du Java pour tout ce qui va être la state machine, etc. Mais sinon, du coup, il y a un moment, j'ai dit je pars parce que je lance ma plateforme, tout ça. Bon, ça s'est fait sur une rupture conventionnelle, donc ça, c'était parfait. Ça fait que ça, on en parle assez peu souvent, mais pour les entrepreneurs, ce qui est bien, c'est d'avoir les allocations de Pôle emploi au moment où tu lances ton projet parce que ça te laisse souffler pendant quelques mois financièrement, le temps que ton projet réussisse. Donc ça peut être sympa d'en profiter. C'est ce que j'ai fait. Et donc, là, on a décidé de lancer le projet avec mon frère. Et là, c'était la première fois de ma vie, en fait, où, si tu veux, en termes d'emploi du temps, des décisions que je prenais, etc., j'avais le contrôle entier sur mon avenir professionnel. dans le sens où bah, là, j'étais pas lié à un organisme, que ce soit aux études ou que ce soit un employeur. Là, j'étais vraiment, entre guillemets, livré à moi-même, surtout au départ, et d'autant plus que j'étais le président de la start-up. J'ai monté la boîte avec deux autres cofondateurs, donc il y avait mon frère qui était le directeur technique, et un troisième qui était un très bon ami qui lui était plus côté DevOps. Mais donc en fait, quand on voit un peu les fondateurs, dont moi, on se rend bien compte qu'il manquait, entre guillemets, une partie pour monter une start-up, c'est la partie produit, la partie UX, voilà, la partie design. Et finalement, c'est moi qui m'en suis occupé. Parce que j'avais justement, comme j'expliquais, un peu ce besoin de créativité et même cette sensibilité graphique. Et donc voilà, ça c'était un peu la genèse de la startup.
Ok, t'en parles au passé, à quel stade ce projet est actuellement?
Ouais, bah t'as bien raison de le noter. Ouais, j'en parle au passé parce que, bah là, c'est parce que c'est du passé un petit peu. Alors, pour donner un peu des dates un peu pour situer. On a créé la boîte en novembre 2018. On a lancé la plateforme au grand public en mars 2019, fin mars 2019. Et là, depuis, en fait, elle existe encore, mais on prévoit de la fermer avec mon frère parce qu'elle nous coûte plus qu'elle nous rapporte. Donc, on a quand même passé beaucoup de temps dessus. Mais au bout d'un moment, en fait, le projet, comme je t'ai dit, c'était plateforme de financement participatif pour les créateurs de contenu. Aussi bien techniquement on va dire, du point de vue du produit, c'est quelque chose qui. On n'est pas parti sur le truc le plus simple d'emblée, c'était quand même un projet assez complexe. Mais même la partie technique, à la limite, c'est ce qu'on maîtrisait le plus. On n'a jamais eu vraiment de soucis techniques, même si mon frère, au départ, il s'est beaucoup formé pour y arriver, parce que bah, quand t'es 3-4 sur le projet, il faut que t'apprennes un peu à tout faire. Et d'un point de vue technique, une plateforme comme ça. Faut bien savoir qu'il y avait même de la gestion de portefeuille en ligne, etc. Donc pour ça, on avait un partenaire et il fallait quand même gérer énormément de choses. Et sur une plateforme web, je ne vais pas revenir dans tous les détails, mais il y a tellement de choses à gérer, c'est vraiment complexe. Et je ne sais plus ce que je disais.
Oui, donc du coup, donc tout ça, a priori, c'est sur la fin. Et du coup, j'ai une autre question. Comment est-ce que tu as géré justement cette transition? Donc, tu as fait quelques années dans une startup, ça t'a donné beaucoup de compétences, en tout cas pas mal de compétences, et ça t'a donné envie de travailler sur un projet plus personnel, on va dire. Donc, tu nous as parlé de certaines aides, effectivement, quand on est auto-entrepreneur, ou en tout cas quand on arrive à quitter son taf actuel sur une rupture conventionnelle, on arrive à avoir quelques aides. Comment tu as géré cette transition? Parce que même si effectivement tu avais des aides, une backup dans un sens, comment tu as géré ça à la fois dans ton organisation, mais à la fois aussi mentalement, cette transition qui est assez quand même un peu un saut dans le vide, quoi.
Ouais, c'est violent, c'est sûr que c'est violent. Faut. Bah, on va dire, ouais, sur le plan mental, psychologique, faut être assez solide, entre guillemets, parce que. Enfin, surtout quand tu vas être chef d'entreprise et que tu te lances dans le monde des startups, c'est vrai que tu vas avoir un peu de tout. Après, la transition en elle-même, pour moi, c'est bien passé parce que c'était un peu un rêve, peut-être pas un rêve que je réalisais, mais un gros objectif que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et donc, ouais, le fait de faire ça, je dirais que ça m'a fait du bien au début. Mais ce qui était le plus drôle, c'est que depuis des mois, je travaillais tous les soirs, tous les midis là-dessus. En gros, en plus de mon boulot en CDI. Et là, d'un coup, bah, je pouvais franchir le pas et me dire, bon, maintenant, je suis à plein temps dessus. Et voilà, on va dire que ce que j'avais acquis en termes de compétences, même organisationnelles, dans la start-up où je travaillais avant. Ça m'a été bien utile. Après, du coup, ouais, j'ai été un peu parachuté, entre guillemets, comme le président de la startup. Donc, ça m'a donné pas mal de responsabilités. Mais après, au début, en toute honnêteté, on était un peu en mode freestyle random, en termes de process et tout, puisqu'on était, voilà, j'étais avec mon frère et un ami. On avait quand même un ou deux stagiaires qui étaient constamment là. Donc, on va dire, on était une équipe de 4-5 personnes que je gérais. Et ouais. C'est vrai que sur le plan personnel, c'est assez dur à décrire parce qu'en fait, on vit des choses. Déjà, on vit des choses qu'on n'a jamais vécues. Clairement, ouais, déjà, on est maître de son emploi du temps, on est maître de ce qu'on fait. Donc, on est face à des situations auxquelles on ne pouvait pas être avant. Dans le sens où, bah, déjà, la vie, elle est quand même beaucoup moins routinière, mais dans le bon et dans le mauvais sens. Parce que, clairement, en plus, dès que quand tu montes une startup, les obstacles, t'en vois beaucoup. On va dire le premier, c'est l'obstacle financier, par exemple. Mais même sur le plan personnel, le fait de gérer une équipe, par exemple, ça, c'est pas toujours simple, même si pour le coup, ça s'est très bien passé. Mais du coup, ouais, cette transition, bah, elle s'est faite. Elle s'est faite, on va dire, plutôt bien. C'est plus sur le plan personnel, je l'ai bien vécu, comme je disais. Et sur le plan de l'équipe et du projet, on a pu mener à bien le projet assez vite. Donc ouais, ça s'est bien passé.
Ok, et là on voit en fait dans ce que tu nous dis de cette expérience que vous avez mis directement, entre guillemets, les grands moyens, c'est-à-dire que on parle directement d'associés, de stagiaires assez rapidement. Avec le recul, alors maintenant du coup que cette aventure est un peu sur la fin, on va pas appeler ça un échec non plus, parce que pour moi rien n'est un échec, surtout qu'apparemment tu as beaucoup appris. Avec le recul, est-ce que tu conseillerais encore, alors ça dépend forcément des projets, mais comment tu vois ce lancement, entre guillemets, gros moyen? Est-ce que avec le recul, tu te dis peut-être que ça aurait été mieux d'essayer de lancer le truc petit à petit, de se faire une image de marque, de trouver ses premiers clients, en étant toi et éventuellement ton frère dans votre canapé, et ensuite, après, de faire un site web un peu plus complet, d'embaucher des stagiaires, de louer des bureaux, etc., etc.
Alors clairement, moi si je devais refaire les choses, si je devais tout refaire, on va dire les 90% des trucs, je les referais pas pareil. Tout simplement parce que depuis, on a appris, je veux dire, en 2 ans, pareil, en 2 ans, on a appris tellement que au début, forcément, on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. En fait, on a fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire, puisqu'au final, moi j'avais 24 ans, mon frère il avait 23 ans, on arrive comme ça, on monte notre startup, bon, voilà, on a fait un peu ce qu'on a pu au début. Et ouais, effectivement, ce que tu dis, c'est assez pertinent dans le sens où, bah, après, c'est comme ça dépend le projet, bien évidemment, ça dépend beaucoup du projet, mais ce que je conseille maintenant à la plupart des gens qui me demandent, c'est que c'est bien d'analyser son marché et même d'avoir une sorte de preuve de marché avant de faire quoi que ce soit. Même si pour nous, en fait, moi, je suis passé à plein temps dessus et un mois plus tard, on avait déjà lancé le produit. Et sachant qu'avant, pendant 9 mois, je bossais déjà le soir un peu dessus. Donc ce que tu évoquais, je l'avais déjà un peu fait. Et à un moment, on a dû employer les grands moyens et y aller à fond. Mais si je refaisais tout avec les connaissances que j'ai maintenant, après, pourquoi pas de repasser full time comme je l'ai fait, ça pourrait être fait. Mais déjà, je pense que le projet était très complexe pour des débutants du monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Il était complexe, bon, de un, je l'ai dit, par sa stack technique qui est vraiment complexe. Et de deux, par aussi le fait que dans notre business model, on avait beaucoup d'innovation. Et qui dit innovation dit pédagogie envers le marché que tu cibles, puisque si tu innoves, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, du moins au niveau du fonctionnement. Donc voilà, on n'était pas parti avec le projet le plus simple. Mais globalement, après, bon, on a fait toutes les erreurs possibles, donc au moins on a beaucoup appris et voilà, tout simplement. Moi, je dirais que les points faibles qu'on avait peut-être au départ, c'était l'UX design, par exemple, vu que c'est moi qui l'avais fait et que j'avais pas forcément de formation dedans, même malgré ma sensibilité graphique, etc. Je vois que ce que je faisais à l'époque, maintenant je ferais différemment, je ferais certainement mieux, parce que j'ai beaucoup appris, donc on avait peut-être une faiblesse à ce niveau-là, et bien entendu, faiblesse niveau sûrement marketing. Donc, mais après, voilà, ce que je dis, c'est que, en fait, ce que je dis toujours, c'est que c'est un échec commercial, ça on peut le dire, parce que par rapport à l'argent qu'on a mis, on n'a clairement pas récupéré ce qu'on a mis. Mais par contre, sur le plan personnel, c'est un peu une des plus grandes réussites de ma vie, dans le sens où, bah, par tout ce que j'ai appris. Parce que je considère que ce que tu apprends par l'expérience, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Même si tu auras beau écouter des mentors ou des gens sur Internet qui te disent. Qui t'explique un peu leur parcours, etc. Le fait de le vivre, et surtout moi, ça s'est passé sur 2 ans, donc c'est quand même un espace de temps qui est assez court. On va dire en 2 ans, j'ai appris tellement que sur le plan personnel, ça a toujours été une réussite. Donc je regrette absolument pas. Parce que si j'avais pas fait ces 1 an, 1 an et demi, 2 ans de start-up moi-même, avec mon frère, etc., j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas de chaîne YouTube, par exemple. J'aurais pas. Puis pareil, ça m'a appris, par exemple, j'ai donné des conférences, des présentations devant des vingtaines, des trentaines de personnes. Et c'est des choses qu'une fois que tu les as fait, Ça te fait plus peur, tu vois. En quelque sorte, t'as gravi certains échelons que, enfin, personnels, on va dire. Et sur le plan personnel, en fait, t'évolues, tu te développes vraiment. Je suis plus la même personne qu'il y a 2 ans, dans le sens où, ouais, je te dis, j'ai beaucoup appris. Et donc, c'est pour ça que les échecs, c'est. Tant que tu apprends ton échec, comme tu disais, tu peux pas vraiment considérer que c'est un échec.
Ok, c'est intéressant ce que tu dis, et là je pense qu'il y a deux choses principales à en retirer. La première, c'est que, comme quand tu parlais du marketing et de l'UX design, il faut pas forcément avoir peur de se dire bon, bah ça je sais pas faire, du coup je vais pas le faire, ou alors il faut absolument que j'embauche. Et c'est vrai que on peut avoir cette tendance, alors ça dépend des profils, mais on peut avoir cette tendance à vouloir embaucher directement. Enfin, moi par exemple, je prends l'exemple de pas mal de personnes qui viennent me voir, qui sont tombées sur mes vidéos YouTube et qui se disent, ah tiens, lui, il sait plus ou moins développer une application, je vais lui demander de développer mon idée d'application.
Ah mais ça on l'a tous, hein. T'as tous les youtubeurs à qui j'ai parlé, t'inquiète pas, tout le monde se fait harceler.
Mais en fait, le truc, c'est que on voit ces personnes qui ont a priori une certaine fibre entrepreneuriale, puisqu'ils ont une idée, ils veulent lancer un projet. Et ils vont tout de suite vouloir déléguer, aller chercher quelqu'un d'autre pour créer ce projet. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va lancer un projet, il y a de fortes chances qu'on soit mauvais sur la plupart de la ligne. Mais il y a une chose dans laquelle on est compétent, peut-être pas mieux que tout le monde, mais en tout cas mieux qu'une partie des gens qui le font. On a forcément un talent plus ou moins caché, ou en tout cas qu'on développe. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut insister. Et ensuite, on commence par faire tout le reste, que ce soit le design, le marketing, etc. Tout ce sur quoi on est mauvais. On commence par le faire soi-même, on essaye d'apprendre, d'améliorer ça au maximum. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, c'est pas mon domaine de compétence, c'est pas ce que je préfère faire. Ok, maintenant j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à faire en sorte que mon produit marche. Bon, bah, là, je peux commencer à embaucher, à déléguer, etc., etc.
Ouais, et puis l'embauche, c'est quelque chose qui vient un peu plus tard. Enfin, déjà, pour embaucher, il faut pas mal de moyens, hein, surtout en France. Mais après, effectivement, il y a pas mal de gens qui ont des idées. Enfin, même tout le monde a des idées, sur un peu tout d'ailleurs. Tout le monde a des idées, des fois elles sont bonnes, des fois elles sont mauvaises. Alors, la plupart du temps, une idée, elle sera pas incroyable, hein, malgré qu'on le pense. Moi, ce que j'ai le plus pu remarquer, mais c'est assez malheureux dans un sens, c'est que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en parlant d'une idée. Et moi, avec le recul, je sais que l'idée, alors soit elle existe déjà, soit elle est immensément compliquée à réaliser, parce qu'il y a des gens, ils viennent te voir, ils te disent, ouais, ben, j'aimerais bien faire une plateforme comme eBay, ou non, comme Amazon. Et en fait, mais c'est dommage, hein, parce que c'est juste une question de recul et d'expérience. Et bon, du coup, tu peux éventuellement les guider, mais après, faut pas non plus dire arrête-toi là, parce que sinon, c'est vrai que ça enlève un peu le truc de l'entrepreneuriat, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, mais ils s'en rendront compte avec l'expérience après. Donc pour moi, c'est pas une tare, loin de là. Vouloir faire des choses, c'est très bien. Après, faut au moins se renseigner sur. Moi, je vois surtout, c'est la faisabilité technique. Comme tu dis, les gens ils viennent nous voir, mais ils se rendent pas compte que bah, la partie technique, c'est souvent sous-estimé par ceux qui sont pas dedans, parce qu'on voit des applications mobiles, des plateformes web un peu partout, et malheureusement, c'est quelque chose qui est très conséquent, donc voilà quoi.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, alors je suis d'accord avec toi sur l'aspect technique. Effectivement, il y a pas mal de gens qui, du fait qu'ils ne soient pas dedans, et c'est normal, ils peuvent pas estimer la complexité technique du développement, de la mise en place. Mais j'ajouterais un petit truc qui est que, alors. En deux parties. La première partie, c'est que il y a d'une part des outils, je pense aux outils no-code par exemple, qui peuvent faciliter la tâche, qui peuvent permettre de créer une plateforme de vente, une marketplace relativement facilement. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est plus simple, on va dire, et plus rapide que de le développer entièrement soi-même. Alors on pourra éventuellement essayer de parler du no-code dans un prochain épisode, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients au no-code par rapport au développement. Mais en fait, on pense souvent que la barrière technique, Enfin, on pense que la barrière technique est plus élevée que ce qu'elle n'est vraiment. Et le deuxième point que je voudrais ajouter, c'est le fait que souvent, quand on a une idée en tête, on veut absolument la développer de A à Z, enfin la mettre en place de A à Z. Je pense notamment à quelqu'un qui veut faire une marketplace. Il se dit, ok, moi je veux que mon application, enfin je veux que ce soit un site web, une application, que cette application elle soit connectée avec machin, truc et bidule, d'avoir telle ou telle fonctionnalité. Enfin, ils veulent tout mettre en place sans vraiment se demander est-ce que ça va plaire aux utilisateurs, est-ce que ça c'est utile. Et en fait, quand on fait un peu ce travail d'épuration, on se dit, ah bon, bah, j'ai pas forcément le budget, j'ai pas forcément le temps nécessaire, mais c'est pas grave, je vais pas abandonner mon projet. Je vais me dire, comment est-ce que je peux commencer, comme tu disais tout à l'heure, à essayer de faire une preuve que le marché existe, une preuve de concept, essayer de créer une version simplifiée, c'est ce qu'on appelle un MVP, une version simplifiée de mon application, de mon service, enfin peu importe. Et ensuite, après, une fois que ça a commencé à marcher, se dire, bon, bah là, on va peut-être commencer à embaucher, à ajouter telle ou telle fonctionnalité. Donc, ouais, ça, c'est. Je pense que c'est assez important d'insister sur ce côté-là, de se dire, bon, il faut déjà se lancer, et après, en fonction des retours qu'on aura, que ce soit, voilà, des retours sur l'aspect technique, est-ce que ça c'est facilement faisable, est-ce que ça c'est trop complexe, on abandonne, ou alors est-ce qu'on essaye de détourner le problème. Ouais, il faut, je pense, insister sur ça, parce que trop souvent on essaye de lancer un projet, on fait une liste complète de ce qu'il y a à faire et on veut tout faire en même temps, quoi.
Mais justement, t'as dit quand même le conseil le plus important, en tout cas moi celui que je donne très souvent, et la plus grosse leçon que j'ai apprise du fait d'avoir monté une startup, c'est le fait de ne pas tout réaliser de A à Z avant de tester son produit. Ça, c'est le pire truc à faire. Donc le mieux, ce qu'on conseille en général, en tout cas dans le monde des startups ou dans le monde où on veut lancer son propre produit, c'est de faire, on va dire, une partie du produit qu'on peut faire tester par des potentiels clients, etc., par un entourage qui est autour de nous ou quoi. Donc c'est de faire tester. En fait, c'est presque de faire un fake de son produit, comme un truc qui marche, mais quelque chose qui prenne pas de temps à faire. Faut que voilà, soit fait bah, je sais, en quelques jours. Après, ça dépend du projet, mais voilà, faut faire une sorte de POC, hein, un proof of concept de votre produit, mais sans avoir tout, enfin vraiment sans limite. Je vous dis, si vous voulez faire une grosse plateforme web, faites d'abord un site vitrine où les gens ils peuvent simplement mettre leur email. Enfin, le but ça va être de tester votre marché. Donc, enfin ce que je veux dire pour résumer, c'est tester absolument votre idée avant de la mettre en œuvre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ouais, tout à fait. Ok. Donc là, effectivement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de se lancer dans la création d'une startup, d'un business. Si on revient un peu plus sur l'aspect programmation, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage du code, soit parce que, selon lui, en regardant des vidéos YouTube par exemple, bah, ça a l'air d'être un truc très intéressant et il veut se lancer dedans pour voir si vraiment, effectivement, ça l'intéresse lui, ou que ce soit pour un profil qui soit déjà un peu entrepreneurial, qui veuille lancer sa startup et qui se dise, ah bah tiens, le code, ça va me permettre de lancer ma startup. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient vers toi, qui te pose cette question, comment je fais pour apprendre à coder?
Alors, très 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 bonne question, parce que tout simplement elle est posée par pas mal de gens. On voit qu'il y a un certain attrait au niveau du code qui attire de plus en plus de novices, et franchement c'est génial, hein, ça veut dire que la communauté, la future communauté des développeurs, elle s'agrandit, donc ça c'est cool. Alors qu'est-ce que je conseillerais? C'est la grande question un petit peu qui revient souvent. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, on va dire la base, c'est de se renseigner sur ce qui est possible de faire avec la programmation. Parce que quand on se lance dans la programmation, on se lance. En fait, apprendre à coder, ça veut rien dire. On peut dire apprendre à coder des systèmes embarqués, apprendre à coder un site web, apprendre à coder une application mobile, mais apprendre à coder tout court, ça veut rien dire. C'est comme dire faire du sport. Si tu dis bah, j'ai commencé le sport, il y a quelqu'un qui va forcément venir te demander bah, tu fais quoi comme sport? La programmation, c'est pareil. Si tu dis j'ai commencé la programmation, ça veut rien dire en soi, tu es obligé de spécifier. Donc déjà, il faut comprendre ça. Faut comprendre que apprendre à coder, il faut quand même partir. Enfin, dans tous les cas, tu vas devoir partir sur un langage, partir sur une technologie. Tu peux pas partir dans tous les sens dès le début. Il va falloir quand même te focaliser sur quelque chose pour progresser. Donc, il y a cette première chose-là, c'est de trouver Moi, ce que je conseille, c'est toujours de trouver le domaine qui nous intéresserait dans la programmation. Donc, à savoir, les domaines, il y en a pas mal, hein. Pour en citer quelques-uns, tu as le web, tu as le mobile, tu as l'IoT, tu vas avoir l'IA, les... Voilà, enfin, tu as plein de domaines comme ça. Donc, déjà, tu te renseignes. Ça, tout le monde peut le faire sur Internet. Des domaines d'application possibles de la programmation. Et une fois que tu as trouvé le domaine qui t'intéresse le plus, là, tu vas pouvoir t'intéresser aux technologies, c'est-à-dire les langages qui existent et qui sont utilisés dans le domaine de l'application que tu as choisi, les frameworks, etc., les outils utilisés. Et le fait de savoir, par exemple, imaginons, je donne un exemple pour imager, je me dis, allez, je vais faire du mobile, je vais faire du développement d'applications mobiles. Là, au moins, tu as un point de départ, tu sais que maintenant, tu vas comparer les technologies de mobile. Parce qu'on est bien d'accord, quand tu veux te lancer dans l'univers du code, il y a un moment, tu vas devoir faire du code. Donc, c'est bien beau de regarder des vidéos YouTube, mais il y a un moment, il va falloir t'y mettre. Et pour t'y mettre, tu es obligé de choisir une technologie précise. Donc, admettons, là, tu vas regarder des comparatifs, un peu des frameworks pour le mobile. Bon, tu vois des notions que tu connaissais pas, du multiplateforme, du natif, tout ça. Alors, dès que tu as un mot que tu connais pas, déjà, faut aller l'identifier. Ça sert à rien de rester bloqué. Dis-toi que va bien te comprendre ce qu'est une notion, comme ça, tout le reste de ta vie, tu seras tranquille. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, tu te dis, ah, les multiplateformes, ça m'intéresse, comme ça, je pourrais déployer sur plusieurs environnements, plusieurs OS, c'est génial. Donc voilà, après tu te dis, ok, je fais du multiplateforme, maintenant qu'est-ce qui existe? Il y a du React Native, il y a du Flutter, il y a du Xamarin, j'en passe, etc. Et là, pareil, tu te renseignes dans chaque. Et après, personne ne pourra faire le choix à ta place. Après, bien sûr, tu auras toujours des gens qui vont dire, oh, c'est mieux ça, c'est mieux ci. Objectivement, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont meilleures que des autres. Ça, tu les verras rapidement se détacher. Mais une fois que tu as fait ce comparatif-là, il y a un moment, tu te fais un choix. Tu fais ton choix et tu décides de la technologie. Bon, là, on est arrivé jusque-là. On va dire, là, tu sais quel langage tu vas apprendre. Une fois que tu sais ça, il y a plusieurs façons de faire. La première des choses, c'est de. On va dire, faut quand même un minimum de base. Donc, d'une certaine façon, tu devras faire en sorte d'apprendre les bases. Pour ça, tu peux soit aller consulter des documentations. Il y en a qui sont très bien faites. Par exemple, moi, j'avais appris Vue.js il y a 2 ans. J'avais commencé à l'apprendre. Les documentations Vue.js, elles sont très clean. Donc, tu peux commencer par là. Tu peux également, le mieux, ce qu'on conseille, c'est qu'une fois que tu as les bases, tu peux aller soit sur des formations un peu plus complexes, qui là pourront t'apprendre à mener un projet à bien, soit directement te lancer dans tes propres projets. Après, toutefois, faut quand même faire attention parce que quand on se lance au début, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc, moi, ce que je conseille souvent, c'est par exemple, quelqu'un qui se lance dans une techno, un bon conseil, c'est d'aller sur GitHub, tu vas explorer les projets, il y en a des tonnes qui sont publiques et qui sont de très bonne qualité. Tu poules ton projet avec Git et comme ça tu peux un peu comprendre la structure d'un projet. Donc une fois que tu en es là, après tu fais tes propres projets. Et après, pour quelqu'un qui va apprendre le code et qui est encore jeune, il y a les études. Moi, je conseille toujours de passer par des bonnes études solides, un bon cursus sera toujours top. Même si les autodidactes, il n'y a absolument aucun souci aussi. C'est juste un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de diplôme à la clé. Là, on va dire la clé sera plutôt le portfolio, sera voilà, la suite des expériences pro des projets. Mais donc voilà, je pense que on a pu un peu voir selon moi en tout cas, les étapes pour se lancer dans le code.
Ok, top. Merci en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont pouvoir se servir de ces différentes petites étapes. Et justement, je me sers de ça pour faire la transition. Tu proposes aujourd'hui des formations sur ton site pour apprendre à coder. Et je me sers justement de ça pour faire la transition sur tes activités actuel, parce que là, donc, on a parlé de la SS2I en startup, ensuite on a parlé de ta startup à toi, qui est un peu sur la fin aujourd'hui, on a parlé de YouTube. Je suppose que pour être dedans, la YouTube Money, l'argent qui provient des publicités YouTube sont pas encore assez suffisantes pour te faire vivre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelles sont tes différentes activités aujourd'hui qui te permettent ou pas d'en vivre?
Comme je le disais en intro, là je tente de faire de la freelance, sachant que j'en ai pas encore beaucoup fait, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience vraiment dans la freelance pure. Donc ça c'est une des voies qui me permet, on va dire, quand même de vivre assez facilement quand j'en fais. Donc freelance, je cherche sur du front-end et du mobile, hein, on est sur du Vue.js ou du Flutter par exemple. Après, on va dire que là la période n'est pas très propice parce que voilà, avec le confinement, etc. Je vois que moi, avec mon frère, en fait, On a eu des contacts, justement des clients potentiels pour du freelancing. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu l'annonce du second confinement, par exemple, on n'en entendait plus parler. Et on a vraiment senti l'effet confinement. Et je ne suis pas le seul, hein, y a beaucoup de gens qui en parlent. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu bloquant. Sinon, après, ouais, on va dire en source de revenus, il y a forcément la petite YouTube Money. Mais comme tu le dis, voilà, c'est pour en vivre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça reste quand même assez compliqué. La vente de formation, franchement, c'est assez secondaire. On va dire que ça ne me permet pas spécialement d'en vivre non plus. Surtout que là, je prépare un vrai programme parce que moi, mon but après, c'est les formations qu'on a faites, elles sont bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent se former avec, il n'y a pas de souci, hein, elles sont qualitatives. Mais après, elles sont standards, je veux dire. Enfin, c'est le standard des formations que je peux trouver sur Udemy, etc. Donc c'est bien. Et après, bon là, je spoil un peu, mais ça, j'en ai pas encore trop parlé. Mais là, je prévois un vrai programme pour les gens qui rentrent dans l'univers du code. Mais un programme qui n'est pas tant technique, mais qui est plus pour accompagner quelqu'un dans sa carrière, dans ses premiers projets. Et surtout pour lui donner tout ce que moi, j'ai pu apprendre de l'univers du code, mais absolument tout à 100%. Essayer de transmettre tout ça, donc c'est un énorme projet. Et on va dire, moi, personnellement, je me vois plus proposer un produit comme ça, faire le vrai produit Made in Frères Codeurs que les formations. Mais bon, comme tu le disais, les formations, elles sont là, elles sont dispo. Donc il y a ça. Bah voilà, ça fait création de contenu, création de produits et freelancing. On va dire, c'est les trois principaux axes. Et il y a quand même la startup qui tourne encore. Donc c'est les quatre axes principaux d'activité actuellement, quoi.
Ok, d'accord. Et est-ce que on peut revenir rapidement sur, enfin, est-ce que tu peux nous parler de l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement? Parce que voilà, tu as parlé du deuxième confinement qui, à l'heure où on échange, est terminé. Mais bon, je le souhaite pas. Peut-être qu'il y en aura un troisième. Enfin, il y aura peut-être encore malheureusement des événements qui vont comme ça à l'avenir venir nous mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Comment tu te sens actuellement en tant qu'entrepreneur? Je pense qu'on peut te décrire comme ça. Est-ce que tu es plutôt serein parce que tu as acquis pas mal de compétences, ou est-ce que au contraire, il n'y a pas des moments où tu es un peu down, où tu es un peu inquiet par rapport à ton avenir et tu te dis, bon, est-ce que je vais pas être contraint, entre guillemets, un jour de, par exemple, devoir retrouver un travail pour un patron, par exemple.
Ouais, c'est une excellente question parce que moi j'ai la chance d'être quelqu'un déjà d'optimiste et d'assez confiant. Et je pense que c'est quand même assez essentiel pour être entrepreneur parce que si tu te laisses abattre dès qu'il y a un obstacle, malheureusement t'iras pas très loin. Donc c'est vrai que la partie psychologique elle est assez importante. Alors ouais, moi comment je le vis? Déjà, moi j'ai une philosophie de base qui est que j'essaie de mettre en place parce que c'est pas forcément c'est quelque chose qui prend du temps au niveau de la maîtrise, mais c'est de penser de cette façon qui est que tous les événements déjà externes sur lesquels on n'a aucun contrôle, style confinement, qui est l'exemple parfait, dans tous les cas, c'est des choses sur lesquelles, comme je le dis, on n'a aucun contrôle. Donc, quoi qu'il arrive, on aura beau se morfondre ou quoi, d'un point de vue objectif, ça changera strictement rien. Donc déjà, moi je pars de ça et donc voilà, un événement externe, c'est vu qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, ça sert à rien que ça rentre en compte pour nos émotions ou nous faire déprimer. Donc après, voilà, je critique pas les gens. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont quand même bien pourries à cause de ça. Mais voilà, moi j'essaie d'avoir un impact sur ce que je peux contrôler. Et ce que je peux contrôler, c'est quoi? C'est mon quotidien, c'est ce que je fais, les heures de travail que je fais chaque jour, sur quoi je veux travailler, etc. Et donc, ouais, en tant qu'entrepreneur, moi, un conseil que j'ai, par exemple, c'est, on va dire, la base quand même de l'entrepreneur, c'est l'organisation, surtout quand tu travailles vraiment seul. Moi, actuellement, c'est ce que je fais, je travaille assez seul, alors qu'auparavant, j'étais plus dans une équipe. Donc, quand tu es seul, ça a du positif comme du négatif. Et le négatif, c'est que tu es livré à toi-même. D'une certaine façon, tu es totalement livré à toi-même. En fait, tu es un peu le seul maître de ton destin. Et c'est toi qui fais ta journée en fait. Le monde extérieur, si t'as une journée où tu fous rien ou une journée où t'es hyperactif, pour le monde extérieur, ça changera rien. Enfin, voilà, c'est vraiment chacun pour soi, entre guillemets. Enfin, surtout dans le cadre que j'explique ici. Donc, moi, j'ai un peu cette mentalité-là de. À force, enfin, je veux dire, on commence à être rodé en fait au bout de quelques années. Et après, faut être assez optimiste, faut être assez confiant. Et puis voilà quoi, après ça se fait au jour le jour, c'est d'avancer. Et un truc que j'adore par-dessus tout, c'est, mais qui est un peu paradoxal, c'est que je sais pas où j'en serai dans un an. Et moi, ça, c'est ça qui me booste, entre guillemets, parce que je me vois pas du tout. Après, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là et y a aucun souci, tu vois, chacun est comme il est. Mais c'est des amis qui ont pas l'esprit d'entrepreneuriat, mais des gens qui sont en CDI et qui, dans un an, ils savent exactement où ils en seront, peut-être avec une augmentation de plus de 10% sur leur salaire, ils ont une nouvelle voiture, etc. Moi, j'ai aucun souci, hein, chacun est comme il est. Mais moi, personnellement, le fait de déjà d'avoir des business ou ne serait-ce que des choses que je propose sur Internet, etc., qui grossissent, style la chaîne YouTube, ou des choses comme ça, en gros, ça a des. C'est le fait de croître aussi bien moi-même que ce que je fais. Moi, c'est ça qui me booste et de me dire que voilà, déjà dans un an, je serai plus haut que je suis aujourd'hui. Et surtout, c'est un inconnu pour moi, c'est une inconnue totale. Et bah, je sais pas, ça, moi, ça, je trouve ça incroyable de se dire que dans un an, je sais, ou même le pire, c'est dans 5 ans, quoi. Dans 5 ans, je serai absolument pas même comment moi je serai et ce que j'aurais pu accomplir d'ici là. Par contre, quand on envisage un peu d'avoir ce chemin-là, il y a une responsabilité monumentale qui pèse sur soi-même, dans le sens où bah, t'as pas envie que dans 5 ans, enfin le toi de 5 ans, tu t'as pas envie de le décevoir, dans le sens où bah, si aujourd'hui tu te laisses aller, clairement, dans 5 ans, tu vas le payer très cher. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où faut assumer ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, je pense que ça résume assez bien ton parcours, en tout cas tes différentes aventures. Moi, je vois ça comme des aventures jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait de se lancer dans des projets créatifs, le fait de donner vie à ses propres idées et le fait aussi, surtout, de s'améliorer, c'est-à-dire de, comme tu disais, d'être dans un an 10% meilleur ou en tout cas juste. Si on ramène ça à l'échelle d'une journée, se coucher le soir en se disant aujourd'hui j'ai accompli quelque chose, j'ai pas lancé des fusées sur Mars, mais au moins je me suis couché plus intelligent que ce matin, j'ai créé plus que ce que j'avais créé jusqu'à ce matin, etc. etc. Ok, bah ça résume assez bien ton parcours. Est-ce que juste pour finir, t'aurais une ressource particulière qui t'a aider à un moment dans ta vie qui t'a inspiré, que ce soit un livre, un site web, une série, un film, peu importe.
Ouais, des choses qui m'inspirent, moi j'en ai beaucoup. On va dire quelque chose qui. Moi, bah, forcément, je suis très inspiré par les grands entrepreneurs hein, qu'on a tous à l'idée, tu vois, les Steve Jobs, les Elon Musk, tout ça. C'est vrai que, par exemple, leur biographie, j'avais lu la biographie de Steve Jobs, c'est. Voilà, ça permet aussi de voir un peu l'envers du décor, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Moi, je fonctionne très bien pour tout ce qui est un peu de se booster au quotidien ou d'être inspiré, je fonctionne extrêmement bien bah déjà rien qu'à la musique, je trouve qu'au niveau de la musique, tu peux te mettre dans des états d'esprit. Bah, ça dépend les gens, hein. Mais pour certaines personnes, moi je sais qu'il y a des musiques qui me. Je les écoute et après 3 minutes, je suis ultra reboosté, même si je viens de bosser 5 heures. Et après, c'est se connaître aussi. Moi, ce que je conseille le plus aux gens, c'est. Enfin, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont ce genre de défi, c'est apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qui marche sur vous-même. Bien lister, franchement, n'hésitez pas vraiment à savoir ce qui marche le mieux exactement. Et l'utiliser de façon ponctuelle, ça c'est cool. Et sinon, non, après, ouais, dans les bouquins, il y a la biographie de Steve Jobs, il y avait celle d'Arnold Schwarzenegger que j'ai beaucoup aimé. Parce que, étant aussi pratiquant un peu en salle, forcément, j'aime bien ce milieu-là aussi. Après, non, voilà, c'est ça. Hein. Et puis, moi, je fonctionne assez bien aussi aux vidéos un peu de motivation. Alors, pas n'importe lesquelles, surtout les trucs sportifs. Je trouve que. On a pas mal de choses à apprendre des grands sportifs qui ont surpassé pas mal d'obstacles aussi. Et après, en conclusion, un peu la ressource indispensable. Ça, c'est plus pour troller, mais ça reste Stack Overflow, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas. Les débutants, n'hésitez pas et n'ayez pas honte d'utiliser Stack Overflow parce que on l'utilise tous aussi bon qu'on soit.
Ouais, tout à fait. Il faut pas croire qu'un développeur est mauvais parce qu'il passe son temps sur Stack Overflow. Pas du tout. Top. Bah écoute, ouais, alors juste, je veux terminer sur un truc que tu disais tout à l'heure, sur le fait de, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pas hésiter à apprendre à se connaître. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis et on terminera là-dessus. Et c'est pour ça en fait qu'on fait souvent le lien entre le développement personnel et l'entrepreneuriat. Moi, je me suis surpris il y a quelques semaines à acheter un livre qui s'appelle si je me souviens bien, les profils émotionnels. C'est vrai que pour moi qui ai l'habitude de prendre des bouquins sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec ça à la caisse? Mais au final, c'est toujours un peu lié dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, bah, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir comment on réagit, il faut apprendre à savoir comment on se motive. Tu parlais tout à l'heure de la musique, etc., etc. Donc effectivement, ne pas hésiter à s'ouvrir un peu l'esprit et à apprendre à se connaître, comme tu disais.
Pire, c'est que tout ça, c'est des choses que les gens répètent beaucoup sur Internet et il y a beaucoup de gens qui sont un peu au courant de ces conseils. Moi, il y a même 3-4 ans, tout ça, je connaissais déjà les concepts, mais j'ai l'impression qu'il y a que quand tu as vraiment commencé à vivre ton truc et au bout d'un certain temps que tu commences vraiment à les comprendre et à les appliquer vraiment. Donc voilà, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Donc voilà, j'invite les gens à faire leur propre aventure et à faire leur propre choix et surtout d'assumer, de se connaître et puis voilà, ils vont vivre quelque chose de cool.
Top, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas Maxime. Est-ce que, juste pour rappel, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter, voir un peu ce que tu proposes sur Internet?
Bah, le contenu que je produis de façon régulière et le plus qualitatif, ce sera YouTube. Moi, je publie 2 vidéos par semaine. Sur toute l'année 2020, j'ai réussi à tenir le rythme. Et là, je repars là-dessus pour 2021. J'ai une vidéo qui sort le mercredi à 16h, non, mercredi 18h, une à dimanche à 16h. Donc, il faut juste taper Frère Codeur sur YouTube. Voilà, sinon après, comme tout le monde, j'ai Twitter, Instagram, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas.
Top. Bah, d'une part, je mettrai tous les liens dans la description de ce podcast. Et d'autre part, bravo pour ta cadence, parce que pour m'être lancé le défi à plusieurs reprises de publier un certain nombre de vidéos par semaine, bravo à toi en tout cas. Bah, merci en tout cas. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience. Et puis peut-être à bientôt pour un deuxième épisode du podcast.
Bah, avec grand plaisir, merci à toi.
Merci à toi, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. Merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.